Jésus que nous prions. Amen.
Amen.
Merci Pierre.
Je vous invite à ouvrir une dernière fois vos Bibles en Matthieu 27. Et nous reprendrons notre lecture là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire au verset 45. Donc Matthieu 27, verset 45, et nous irons jusqu'au verset 54. Alors comme c'est un texte un petit peu plus court que ce qu'on a fait jusqu'à présent, on aura aussi l'occasion à la fin d'avoir une conclusion générale sur les trois interventions. Et après ça, si on a le temps, on pourra avoir des questions ensemble, ou sinon vous pourrez garder vos questions pour qu'on puisse en discuter le temps de la fin du congrès GBU, si vous voulez. Donc Matthieu 27, à partir du verset 45 jusqu'au verset 54. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus cria « Eli, Eli, lema sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « En voilà un qui appelle Eli ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vin aigre. Il la fixa à un roseau pour lui donner à boire. Mais les autres dirent « Laisse, voyons si Élie va venir le sauver !» Jésus poussa encore un grand cri et rendit l'esprit. Alors, le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Sortis des tombeaux après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Celui-ci était vraiment fils de Dieu. » C'est la parole de Dieu qui nous bénisse par elle. Alors nous avons vu hier soir, comment Jésus a souffert aux mains d'hommes déchaînés. En ceci, ils étaient représentatifs de l'attitude de l'humanité tout entière, de l'attitude de l'humanité envers Dieu, même lorsqu'il se présente à nous de la manière la plus humble qui soit. Nous avons vu hier soir ce que Jésus a souffert aux mains d'hommes pécheurs en rébellion contre Dieu. Nous avons vu ce qu'il a souffert de la part des hommes et nous allons maintenant voir ce qu'il a également enduré quant à sa relation avec son Père. Et c'est seulement après ça que nous verrons ce que ça veut dire pour notre monde et pour nous. Mais je vous propose tout de suite d'entrer dans notre texte et de voir premièrement la croix comme abandon du Fils. La croix comme abandon du Fils. Versets 45 à 50. « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Et vers la neuvième heure, Jésus cria « Eli, Eli, lema sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent, ils disaient « En voilà un qui appelle Eli !» Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui est remplie de vin aigre. Il la fixa à un roseau pour lui donner à boire. Mais les autres dirent « Laisse, voyons si Eli va venir le sauver !» Jésus poussa encore un grand cri et rendit l'esprit. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé le 11 août 1999 dans le nord de la France ? Une éclipse. Alors, personnellement, j'y étais pas, j'étais aux États-Unis, mais mes parents m'ont raconté qu'ils ont été fortement impressionnés par l'éclipse totale de soleil qu'ils ont observée ce jour, même si ce phénomène n'a duré que quelques minutes, en tout cas pour la partie éclipse totale. Alors, j'ai regardé sur Internet, la prochaine éclipse totale de soleil en France est prévue pour le 3 septembre 2081. Donc, on dirait que j'ai loupé quelque chose ce jour-là. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Quelle que soit l'explication physique qu'on essaie de donner au phénomène rapporté au verset 45 de notre texte, il y a une chose qui est sûre. Il y a plusieurs théories qui sont avancées, mais une chose est sûre. Cette obscurité longue de 3 heures a dû paraître une éternité à ceux qui étaient là. Et ça a été certainement beaucoup plus impressionnant que l'éclipse totale de soleil du 11 août 99. Verset 45, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire à peu près depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Alors, on peut hésiter sur l'étendue géographique du phénomène. On peut traduire avec la Nouvelle Bible Second que les ténèbres ont été sur toute la terre. ou avec la Bible du semeur, qu'elles ont été surtout le pays. Les deux traductions sont possibles avec le grec qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas le plus important, puisque pour comprendre notre texte, nous n'avons pas besoin de saisir exactement quelle était la nature du phénomène météorologique qui a eu lieu durant ces 3 heures. On n'a pas besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Ce qui est important, c'est plutôt qu'il y a eu des ténèbres au moment de la crucifixion. Et la question qui est importante, ce n'est pas comment ça s'est fait, mais pourquoi ça a eu lieu. Alors, pourquoi des ténèbres? Alors, plein d'explications, on peut en trouver plein, je suis sûr que vous en avez entendu plusieurs. Certains pensent qu'il s'agit d'un signe symbolique qui sert en quelque sorte à jeter une sorte de voile sur les souffrances du Fils, ou peut-être même sur la déchirure relationnelle qu'il y aurait eu entre le Père et le Fils. Et donc, on met un voile, il y a des ténèbres, c'est un peu mystérieux, et on ne peut pas le percer. Il y a peut-être quelque chose de ça, mais personnellement, j'en suis pas trop convaincu. Ce qui me semble plus certain, c'est qu'il y a ici une allusion à un épisode de l'Ancien Testament qui était connu de ceux qui lisaient la Bible. Voilà ce qu'on trouve en Exode 10, au verset 22. Moïse tendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la traduction grecque, que l'évangéliste Matthieu avait certainement à sa disposition, il y avait la même expression qu'au verset 45 de notre passage. Il n'y avait pas écrit « il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours », mais « il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays ou sur toute la terre pendant 3 jours ». Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il y a ici une sorte de réminiscence de ce qui s'est passé juste avant l'Exode. Les 3 heures de ténèbres sur toute la terre ou sur tout le pays correspondent aux 3 jours de ténèbres sur toute la terre ou sur tout le pays d'Égypte au moment ou juste avant l'Exode. Ce qui se passe à la croix est semblable à ce qui s'est passé lors de la 9e plaie d'Égypte. Cette plaie, c'était l'avant-dernière. La dernière préparation avant la dernière et la plus terrible des plaies, celle dans laquelle culminerait la colère de Dieu, celle dans laquelle il châtierait le peuple d'Égypte en le privant de ses premiers-nés. Et donc, il me semble, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la croix est présentée, à cause de ces ténèbres de 3 heures, comme un jugement. Les ténèbres qui règnent sur la nouvelle Égypte, sur la terre qui crucifie son Seigneur, sont là pour en témoigner. Mais il se passe alors quelque chose d'extrêmement surprenant. Contrairement au cas de l'Égypte, ce n'est pas le peuple fautif qui va subir la plus forte expression de la colère. La 9e plaie servait de préparation à la 10e pour le même peuple. Mais là, il y a un signe de jugement, les ténèbres, pendant 3 heures, sur la terre, sur le pays. Mais ce n'est pas le peuple qui va subir la 10e plaie, celle de la mise à mort des premiers-nés. Parce que cette fois-ci, qui est-ce qui est mis à mort? Non pas les premiers-nés du peuple fautif, mais Jésus, le fils premier-né de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est sur la croix et qui s'écrie du milieu des ténèbres, « Eli, Eli, lema sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il interpelle Dieu en hébreu, la langue des Écritures, en disant « Eli, Eli, mon Dieu ». Et puis, il poursuit en araméen la langue du peuple de Palestine de cette époque en disant « Lema sabachthani ». Et vous savez ce qu'il fait ici? Eh bien, à nouveau, on a une allusion. En fait, on a une citation au psaume 22. C'est pour la 4e fois dans le chapitre 27 de l'évangile de Matthieu. Encore ce psaume 22, comme dans le passage précédent. Et donc, ici, on retrouve le thème qu'on a vu hier soir. L'évangéliste continue à nous décrire Jésus comme le juste persécuté. Sauf que jusqu'à présent, Jésus était persécuté par les hommes, par les moqueurs. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau. Ce ne sont plus seulement les hommes qui sont contre lui. Maintenant, Jésus se sent abandonné par Dieu lui-même. Alors, on pourrait se dire, mais tiens, Jésus, c'est pas un manque de sa foi de sa part de dire que Dieu n'est plus là, qu'il l'a abandonné. On pourrait le croire. Je suis d'accord. Mais remarquez quand même que même s'il ne s'adresse pas ici à Dieu comme à son habitude en disant « mon Père », il appelle tout de même « mon Dieu ». Et même dans son angoisse, il dit « mon Dieu ». Dieu continue à être son Dieu. Et donc, en criant à lui de cette manière et en disant son sentiment d'abandon, il est quand même en train de manifester sa foi. Mais en même temps, il dit ce qu'il ressent réellement. Et ce qu'il ressent, c'est terrible. Il se sent tout seul. Absolument tout seul. Alors, ça nous arrive de nous sentir tout seul. Mais ce que Jésus a dû ressentir ici, même pour ceux d'entre nous qui sont les plus habitués à la solitude, c'est inimaginable. Tant les liens que le Fils avait avec le Père, de toute éternité, sont infiniment plus resserrés que les liens que nous pouvons avoir sur cette terre, même avec les personnes qui nous sont les plus chères. En fait, c'est réellement impossible d'imaginer ce que Jésus a ressenti à ce moment-là. Enfin, c'est réellement impossible de l'imaginer, et pourtant, je vais essayer quand même de vous donner une sorte d'image de cela. Imaginez qu'à la fin de cette intervention, vous soyez vraiment fâché contre moi à cause de ce que j'ai dit. Vous vous levez et vous dites « Je veux plus jamais avoir de contact avec toi, Pierre Sauvane. » Franchement, si ça arrivait, j'avoue, ça m'affecterait un peu. Et surtout, mon orgueil en prendrait un coup. Mais franchement, sans vouloir vous offenser, je crois que je m'en remettrais. Maintenant, si c'est l'un de mes amis proches qui vient et qui me dit « Je te parlerai plus jamais », ça me rendrait malade. Mais surtout, si c'est ma chère épouse qui me disait « Je veux plus jamais te voir », j'en serais dévasté jusqu'au plus profond de moi-même. Bien entre Jésus et son Père, qui se connaissent de la manière la plus intime qui soit depuis toute l'éternité, il y a quelque chose de la séparation entre un mari et une femme, mais en mille fois pire, en 10 000 fois pire, en infiniment pire. Et là, Jésus a la relation la plus importante, qui soit celle qui valorise la plus, et il sent qu'elle est coupée. Jésus se sent abandonné, terriblement seul. La relation éternelle du Fils avec le Père, à laquelle ils tiennent tant tous les deux, semble être rompue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus est en train de vivre un enfer. Il est en train, sur sa croix, de descendre en enfer, de vivre pleinement le sentiment de la séparation d'avec Dieu. Alors, quand je dis cela, je ne dis pas cependant que le Père a véritablement abandonné le Fils, comme s'il n'était plus son Fils bien-aimé, en qui il prend plaisir. C'est ce qu'il avait dit au moment du baptême, en tant que son Fils, c'est cela qu'il est pour lui. Pourquoi je ne dis pas ça ? Parce que ça impliquerait une sorte de déchirure au sein de la Trinité, qui me paraît quand même difficile à concevoir. Alors, je suis d'accord, on peut en discuter, je suis prêt à en discuter après si vous voulez. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus se sent véritablement abandonné. C'est ce qu'il ressent vraiment, même si ce n'est pas objectivement ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, il n'a plus le sentiment de la faveur de Dieu comme il a toujours eu de toute éternité. Et en tant qu'il se sent abandonné, absolument coupé relationnellement du Père, il expérimente personnellement ce que nous appelons l'enfer, c'est-à-dire la séparation, le sentiment de la séparation totale d'avec Dieu. Le fait que la seule présence de Dieu qu'on puisse ressentir, c'est celle de sa défaveur, de sa colère. Et au milieu de ce drame relationnel, au milieu de cela, voyez la réaction des personnes qui l'entourent. Il ne pense qu'à se moquer de lui. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il cofonde, et à mon avis, c'est volontaire, c'est pas juste qu'il se trompe, c'est pour appuyer là où ça fait mal, pour se moquer. ils confondent le mot hébreu Eli, qui signifie mon Dieu, avec le nom propre du prophète Eli, Elia en hébreu. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire ici, à mon avis, c'est qu'ils continuent dans la lignée des sarcasmes qu'on a vu hier, et ils demandent ironiquement si Eli, par hasard, le prophète qui devait revenir pour précéder le Messie, est-ce qu'il ne va pas apparaître par magie pour intervenir en faveur de ce prétendu Messie ? Bien sûr que Eli ne va pas venir, puisque ce n'est pas le Messie. Mais là, il se moque. Et puis pendant ce temps-là, on offre à nouveau du vin à Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que la première fois, il avait refusé. Mais maintenant, il accepte. Pourquoi ? Ça ne nous est pas dit. Par contre, c'est dit que juste après, Jésus va crier d'une forte voix. Alors, ce qu'on peut supposer, c'est que Jésus boit pour se désaltérer. Ça fait un petit moment qu'il n'a rien bu. Et en plus, il est en train d'agoniser sur sa croix. Il commence à être asphyxié. Il a besoin de boire pour pouvoir un peu retrouver sa voix, pour crier une dernière fois d'une voix forte, comme nous dit le texte. C'est ce qu'il fait au verset 50. Et après avoir crié d'une voix forte, il rend l'esprit et il meurt ainsi d'une manière miraculeuse. Normalement, pourquoi je dis qu'il meurt d'une manière miraculeuse, c'est que normalement une personne crucifiée ne devrait pas mourir aussi vite. Mais en mourant ainsi, en criant, et puis ça y est, il rend l'esprit, Jésus montre d'une certaine manière qu'il maîtrise les événements malgré sa position très délicate de crucifié. C'est lui qui décide quand il rend son souffle. Regardez bien ce qu'a fait Jésus. Avant d'être crucifié, il n'a pas voulu prendre la boisson qui ne lui aurait pas permis de souffrir consciemment le châtiment qu'il devait endurer, le sentiment de l'abandon de Dieu. Mais maintenant qu'il a souffert cela, que pendant ces 3 heures, il s'est senti abandonné par Dieu, qu'il a vécu personnellement l'enfer, eh bien, il sait qu'il a accompli ce pourquoi il est venu. Et donc, à ce moment-là, il peut boire à nouveau, pousser un grand cri et rendre l'esprit, comme pour manifester qu'il a le pouvoir de donner sa vie et qu'il la donne volontairement au moment où il le décide lui-même. Et donc, à mon avis, en décrivant la mort de Jésus de cette manière, même si c'est très sobre, eh bien Matthieu suggère que la mort de Jésus est volontaire, qu'elle est maîtrisée, de même que c'est un sacrifice volontaire. Jésus décide même du moment où les choses se passent. C'est volontaire, c'est maîtrisé. Et donc, on a même dans la mort de Jésus un signe. On se rappelle, les gens qui étaient au pied de la croix demandaient un signe pour croire à Jésus. Eh bien voilà, la manière même dont Jésus meurt est un signe. Et ce signe-là, lui-même, est entouré d'autres signes que je vous propose maintenant de voir en passant à la deuxième partie de notre texte, où nous y voyons deuxièmement la croix comme signe. Au moment où Jésus expire, 3 signes, en effet, ont lieu. 3 signes, et même, si on veut, un 4e. C'est ce que nous trouvons dans les versets 51 à 54. Alors le voile du sanctuaire se déchira en 2, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Sortis des tombeaux après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Celui-ci était vraiment fils de Dieu. » 3 signes. Le premier signe, c'est sans doute le plus connu. Quand Jésus rendit l'esprit, le voile du sanctuaire se déchira en 2, d'en haut jusqu'en bas. On a même des cantiques sur ça. Le voile se déchire totalement. L'évangéliste Matthieu, il faut bien le dire, ne nous donne pas le sens du signe. Mais on sent bien qu'il y a là quelque chose d'important. Alors, on a déjà vu hier que Jésus était présenté par l'évangéliste comme le véritable Fils de Dieu, qui récapitulait dans sa vie l'histoire d'Israël, et qui réussissait là où le peuple avait échoué, et qui subissait aussi à sa place la condamnation du peuple. Durant la plus grande partie de l'histoire du peuple, eh bien, et à partir en fait de l'époque de Moïse, les relations entre le peuple de Dieu et Dieu avaient été régies par un système complexe qu'on a vu hier dans le premier survol, un système complexe comprenant de nombreuses lois rituelles, de nombreuses règles autour de la thématique du pur et de l'impur. Ça, c'est pur, ça, c'est impur. Si tu fais quelque chose d'impur, tu dois te purifier de cette manière-là. Et bon, il y a des choses qui sont... Il y a beaucoup, beaucoup de règles, et on peut se demander parfois, mais pourquoi ces règles ? Pourquoi cette règle précise ? Je pense que ce qui est important, c'est de regarder l'objectif pédagogique dans son entier, et pas de se demander pourquoi cette règle-là, précisément. Le but de l'objectif le but de ces dispositions au niveau pédagogique, ben, c'était de montrer au peuple que c'est très difficile d'avoir une relation avec Dieu parce que presque quoi qu'on fasse, eh ben, on est impur. Si une femme a ses règles, elle est impure. Si elle s'assoit sur une chaise, la chaise devient impure. Si un homme s'assoit sur la chaise, il devient impur. Et on doit tous aller se purifier. Et c'est comme ça pour tous les détails de la vie. Il y avait un objectif pédagogique, c'est de dire on est impur rituellement et c'est une image de ce qu'on est moralement. Le péché est partout dans notre vie. On est impur devant Dieu. C'est difficile d'avoir accès à lui parce qu'on est pécheur. On est impur devant lui. Et le voile du sanctuaire, c'était l'un des symboles et peut-être le plus fort de ces symboles qui disait la difficulté, même l'impossibilité d'accéder au Dieu très saint. Ce voile épais séparait en effet le lieu saint dans lequel déjà seul les prêtres pouvaient entrer, du lieu très saint, du sanctuaire dans lequel la présence de Dieu était figurée par l'arche de l'Alliance. Et dans ce lieu très saint, absolument personne n'avait le droit d'entrer, alors que c'était là où était symbolisée la présence de Dieu. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait rentrer, c'était le grand prêtre, et il pouvait le faire qu'une seule fois par année, et il pouvait le faire seulement en respectant tout plein de rites compliqués d'expiation et de propitiation, destinés à enlever symboliquement le péché du peuple, destiné à apaiser symboliquement la colère que le Dieu juste éprouvait à l'égard d'un peuple injuste. Alors que le voile se déchire de haut en bas complètement au moment où Jésus meurt, ce voile qui symbolisait l'impossibilité d'accéder à Dieu, eh bien que ce voile se déchire, ça signifie que l'ancien système sacrificiel et symbolique est aboli. C'est terminé. On n'est plus dans la figuration. Pourquoi ? Parce que le véritable sacrifice est venu. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un sacrifice symbolique, de la même nature que les sacrifices d'animaux, qui ne pouvaient pas réellement se substituer au peuple pécheur. Est-ce qu'on peut vraiment racheter un homme avec un animal ? Là où les sacrifices d'animaux n'étaient qu'une préfiguration symbolique, une ombre de substitution pénale, Jésus, lui, puisqu'il est un homme, peut payer à la place des hommes. Et puisqu'il est juste, il n'a pas besoin de payer pour ses propres péchés. Et donc, il peut payer pour ceux des autres. Et puisque sa mort possède un caractère pénal, puisque cette mort est celle d'un innocent, puisqu'il s'offre volontairement, Jésus opère véritablement, nous l'avons vu hier dans la première séance, une substitution pénale que de simples animaux ne pouvaient bien sûr pas accomplir. En s'offrant en sacrifice sur la croix, Jésus vient mettre un terme à ce système symbolique, puisqu'il est lui-même le véritable sacrifice, la substance que préfiguraient les sacrifices d'animaux de la loi de Moïse. Et donc, le voile peut être déchiré de haut jusqu'en bas. Il n'y en a plus besoin. C'est terminé, c'est la fin absolue de ce système symbolique. Le deuxième signe, c'est un tremblement de terre qui va jusqu'à fendre les rochers. Le tremblement de terre dans la Bible, c'est quoi ? Eh bien, c'était un signe qui était très souvent, la plupart du temps en fait, presque systématiquement associé à ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation perceptible par les sens de la présence de Dieu. C'est un signe de la présence de Dieu. Dans tous les cas, il y a un cas où c'est juste une allusion historique dans Amos, mais dans tous les cas, c'est un signe de la présence de Dieu. Une présence qui est terrible, parce que c'est terrifiant d'entrer dans la présence du Dieu saint, mais c'est la présence de Dieu qui est d'abord signifiée par le tremblement de terre. En faisant trembler la terre, au point de fendre les rochers et d'ouvrir les tombeaux, Dieu signale que même si c'est le signe de l'abandon pour son fils, c'est en même temps, à ce moment-là, Dieu est bien présent. Même si Jésus se sent abandonné, Dieu est bien présent à la croix. il est pleinement impliqué, il manifeste sa présence. Pour Jésus, la croix a été vécue comme un abandon. Mais pour ceux qui sont au pied de la croix, ceux qui sont en face de la croix, ceux qui regardent la croix, non seulement ceux qui y étaient, mais nous aussi, la croix, c'est le signe d'une présence, le signe de la présence de Dieu. Le troisième signe, encore plus spectaculaire et à certains égards encore plus mystérieux, c'est la résurrection des corps de beaucoup de saints endormis, de personnes qui avaient mis leur confiance en Dieu et qui croyaient qu'il sauverait son peuple en envoyant un Messie, en envoyant celui qui devrait être le roi de son peuple, le roi des Juifs. Alors, le texte en grec n'est pas très clair sur le moment où ces gens sont ressuscités. On peut traduire qu'ils ont été ressuscités au moment où Jésus est mort, ou bien qu'ils ont été ressuscités au moment où Jésus lui-même s'est réveillé. Ce que je crois personnellement, c'est que les tombeaux ont été ouverts au moment de la mort de Jésus et du tremblement de terre, mais que les corps de ces personnes ne sont revenus à la vie qu'au moment de la résurrection de Jésus. Ça me paraît plus cohérent. Parce que dans ce cas-là, le symbolisme serait le suivant. La mort de Jésus met à mort la mort. Là, on arrive enfin à notre thème, la mort de la mort. La mort de Jésus met à mort la mort. Elle lui porte une sorte de coup fatal. Elle ouvre le tombeau des saints. La mort est vaincue. Et la résurrection de Jésus donne la vie à ceux qui croient en lui. Ils sont rendus vivants par son propre retour à la vie. Par la puissance de la résurrection de Jésus, ceux qui sont en lui, ceux qui croient en lui, ressuscitent eux aussi. C'est là, par la puissance de sa mort que la puissance de la mort a été vaincue. Et c'est par la puissance de sa résurrection que nous vivrons pour toujours avec lui, si nous croyons en lui comme celui qui est mort pour nous. Et donc, voilà pour ces trois signes qui accompagnent la mort de Jésus et qui font de la croix le signe d'un changement de système, le signe de la présence de Dieu auprès de son peuple, d'une manière un peu terrible, parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu sans justice. Et puis le signe d'une victoire sur la mort. Et puis, il y a ce qu'on pourrait considérer soit comme une réponse à ces trois signes, la réponse appropriée à ces trois signes, soit même comme un quatrième signe. C'est la réaction du centurion qui est rapportée au verset 54. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Celui-ci était vraiment fils de Dieu ». Encore, fils de Dieu. Quelque part, ça aussi, c'est un signe, c'est un miracle, même si ça nous paraît moins extraordinaire. Ceux-là même qui se sont moqués de Jésus d'une manière si terrible, en faisant cette sorte de pièce de théâtre moqueuse, ce simulacre d'intronisation, ceux qui ont planté même les clous dans les poignets de Jésus, quelques heures auparavant seulement, ceux-là même interprètent correctement ce qui vient de se passer. C'est quand même un miracle. Saisis d'une grande crainte, ils dirent « Celui-ci était vraiment fils de Dieu ». Voilà la conclusion à laquelle l'évangéliste veut que nous arrivions. Pourquoi est-ce que Matthieu rapporte cela? C'est parce qu'il veut que nous aussi qui lisions l'évangile, nous arrivions à la même conclusion. C'était vraiment le fils de Dieu. Et peut-être que les Romains ne savaient pas exactement ce qu'ils disaient en disant « fils de Dieu ». Mais si on a lu l'évangile de Matthieu depuis le début, on a compris maintenant c'est quoi le fils de Dieu. C'est le roi qui est envoyé par Dieu, qui récapitule l'histoire d'Israël, qui vit la vie à la place de son peuple, qui meurt pour lui. C'est cette conclusion à laquelle sont arrivés ces païens brutaux et méchants. C'est la conclusion à laquelle nous devons arriver. Mais remarquez une chose, c'est que ce sont les seuls dont Matthieu nous dit qu'ils sont arrivés à cette conclusion. Il ne nous dit pas que les passants, les chefs des Juifs, ont fait de même. D'ailleurs, il ne nous dit pas non plus que le deuxième brigand est arrivé à cette conclusion-là. C'est Luc qui nous le dit. Et ce sur quoi il insiste ici, c'est sur le fait que ce sont des païens, des étrangers au peuple historique avec Dieu, du peuple historique avec qui Dieu a conclu son alliance. Ce sont des païens qui reconnaissent Jésus pour ce qu'il est. Et ça, c'est un miracle. C'est un autre signe qu'il y a avec la croix. Des païens se tournent vers Dieu par Jésus-Christ à cause de ce qu'ils ont vu sur la croix. C'est à cette conclusion que doivent arriver tous les lecteurs de l'évangile de Matthieu, à savoir que celui-ci était vraiment fils de Dieu. Il était le représentant de son peuple, le roi envoyé par Dieu, le Seigneur auquel nous devons tous nous soumettre et à qui nous devrons rendre des comptes. Celui-ci était vraiment fils de Dieu. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre texte pour ces deux jours. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire le lien entre ce que nous avons vu hier et ce que nous voyons dans notre passage ce soir. Et voici ma conclusion, c'est de voir la croix comme réconciliation et comme victoire. Alors une chose que je dois dire et que je veux dire, c'est que je sais que peut-être certains d'entre vous ont pu être frustrés ou lassés par les présentations de la croix que j'ai faites hier. Peut-être certains se sont dit « Encore et toujours la même manière de présenter la croix, en disant que Jésus est mort à notre place, qu'il s'est substitué à nous, qu'il a juridiquement subi notre condamnation, etc. etc. » Il y a d'autres manières de présenter la croix. Pourquoi est-ce qu'on insiste toujours sur celle-là? Il y a d'autres modèles qui sont plus pertinents pour nous, pour notre société, qui nous parlent mieux. Là, le côté juridique, un peu, il faut un sacrifice sanglant, c'est un peu dégoûtant. Si c'est ce que vous avez pensé, j'aimerais vous manifester ma plus grande sympathie. Parce que c'est vrai que dans la Bible, la présentation de la croix ne se limite pas toujours au modèle juridique de la substitution pénale. C'est vrai, c'est pas le seul modèle. Et je suis d'accord aussi avec vous, si c'est ce que vous pensez, que pour beaucoup de nos amis et de nos proches, et même pour beaucoup d'entre nous, une telle présentation n'est pas très pertinente. Ça ne nous affecte pas beaucoup tout de suite. Pourquoi parler comme ça en termes juridiques? Pour nos amis, tant qu'ils n'ont pas conscience d'être coupables devant Dieu, ça ne veut rien dire. Et déjà, il faudrait déjà qu'ils aient conscience que Dieu existe. Alors, en plus d'être coupables devant Dieu, rendez-vous compte. C'est clair que pour eux, l'idée que Jésus soit mort à notre place, c'est idiot, ça ne sert à rien, ça ne répond pas à un besoin ressenti. Alors, c'est vrai. Les problèmes qu'on se pose souvent aujourd'hui au niveau existentiel ne sont pas vraiment de l'ordre du juridique, de la recherche d'une vérité, d'un absolu. Parce que notre monde ne croit vraiment pas, ne croit vraiment plus à ce genre de choses, et ne croit plus vraiment à ce genre de choses. Les angoisses existentielles qu'on exprime sont plutôt exprimées sous d'autres catégories, avec d'autres formes, d'autres modèles. La réflexion que nos amis ont souvent, et nous-mêmes aussi, puisqu'on fait partie de la même société qu'eux, de la même culture, c'est plutôt de l'ordre du relationnel. Les questions qu'on se pose, c'est plutôt comment rétablir l'harmonie avec soi-même et avec les autres? Comment obtenir la réconciliation de nous-mêmes avec ce qui nous entoure? Et d'une manière générale, la réconciliation entre les hommes? Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre ensemble? La réflexion, elle peut aussi se situer au niveau de notre liberté, de la victoire sur l'oppression, la victoire sur le mal, sur la souffrance, sur le malheur ou sur la maladie, la victoire sur le destin qui s'acharne sur nous, la victoire peut-être sur la mort. Comment combattre ces fléaux? Comment en venir à bout? Ou du moins les limiter, les circonscrire, les rejeter les plus loin de nous pour qu'ils n'affectent pas trop notre vie. S'agit-il là, et je ne veux pas critiquer, c'est simplement des faits, nos aspirations sont plus à ces endroits-là. Et je dois dire, il s'agit là d'aspirations qui sont humaines et qui en elles-mêmes sont bonnes. Le problème, c'est plutôt les moyens qu'on met en œuvre pour satisfaire nos aspirations, pour satisfaire nos besoins de rétablir l'harmonie, notre besoin d'être vainqueur sur ce qui nous rend la vie difficile. Les moyens que nous mettons en œuvre sont souvent imparfaits, inefficaces, voire même contre-productifs à long terme. Mais ce que nous montre notre passage de ce soir, c'est que nous avons la possibilité de présenter une bonne nouvelle à des personnes qui ont ce genre d'aspiration, en leur montrant ce que Jésus a accompli sur la croix. Ce que nous montre notre passage de ce soir, c'est la croix de Jésus-Christ comme réconciliation et comme victoire. La croix de Jésus-Christ comme réconciliation et comme victoire. Premièrement, la croix comme réconciliation. De quelle manière? Eh bien, c'est en contrepartie du terrible sentiment d'abandon que Jésus a vécu sur la croix. Jésus s'est senti abandonné, terriblement seul. Le sentiment d'harmonie qu'il avait de toute éternité avec son Père a été rompu. Et de ce fait, il s'est trouvé dans une situation vraiment semblable à la nôtre. C'est juste que c'était pire, largement pire. mais la même chose que nous, mais intensifiée. Et de ce fait, il s'est retrouvé dans le même problème que nous, le problème du manque d'harmonie. Ce que je veux dire, c'est que la situation de l'humanité, telle que nous la connaissons, peut être analysée et présentée sous l'angle de la relation avec Dieu. C'est ce que nous faisons souvent maintenant dans nos présentations de l'Évangile, et nous avons raison de le faire. Nous avons raison de dire à nos proches que l'aspiration à l'harmonie avec soi, avec les autres, avec la nature est normale. Et nous avons raison aussi d'ajouter que cette aspiration provient de ce qu'au départ, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive en harmonie avec son Créateur, avec les autres créatures, avec les autres êtres humains et avec lui-même. Nous pouvons présenter le message de la Bible comme ça parce que c'est vrai. Mais la situation de l'humanité a dramatiquement évolué. L'homme a voulu modifier la relation de dépendance heureuse et harmonieuse qu'il avait en tant que créature avec son Créateur. Il a voulu prendre le pouvoir, et ce faisant, il a brisé l'harmonie qui régnait dans la création. Il a rompu d'abord sa relation avec Dieu, et la conséquence de cette rupture relationnelle, ça a été tout un enchaînement de déséquilibre, de rupture, comme dans un écosystème, on brise quelque chose et il y a des conséquences en chaîne. Avec le reste des créatures, avec les autres êtres humains, et aussi même avec nous-mêmes. Et on est mal dans notre peau. Et Jésus, dans notre passage, souffre exactement ça, ce manque d'harmonie, cette rupture relationnelle. Et le fait qu'il le souffre d'une manière encore beaucoup plus intense que tout ce que nous pouvons vivre. Il a souffert l'angoisse la plus terrible. Les autres se moquaient de lui, rupture relationnelle avec les autres êtres humains. Et même la nature a exprimé combien l'ordre cosmique était perturbé avec cette éclipse de 3 heures. Il se passe vraiment quelque chose d'anormal dans la création. Et surtout, Jésus a perdu le sentiment de sa relation avec Dieu. La question, c'est d'accord, mais en quoi est-ce que ça nous amène à parler de la croix comme réconciliation ? Eh bien, je dois le dire, il faut souvent commencer par ce côté relationnel pour présenter l'Évangile d'une manière pertinente à nos amis, mais ce n'est pas en excluant les autres modèles. Il n'y a pas différents modèles dans la Bible, et puis on choisit celui qu'on veut, et en fait c'est des théologies concurrentes, et il y en a qui est pertinent pour certains, mais en fait c'est à l'exclusion des autres. Les différents modèles se recoupent, et ils s'articulent les uns avec les autres. Et la manière dont l'idée de réconciliation arrive par rapport au thème relationnel, c'est en introduisant, en réintroduisant, d'une autre manière, et j'espère qu'on peut le faire d'une manière assez subtile, en réintroduisant d'une autre manière l'idée de substitution, de remplacement. On commence par dire que Jésus a vécu à notre place ce que nous vivons déjà dans une certaine mesure, les ruptures relationnelles. Lui, il l'a vécu le plus intensément possible. Et aussi, il nous montre sur la croix ce que nous subirons nous-mêmes dans l'éternité, si nous ne changeons pas, si nous laissons encore grandir le mal-être qu'il y a en nous et le mal-être qu'il y a dans notre monde. Si on continue à vouloir vivre en vivant séparément de Dieu, en refusant la relation avec lui. Il a vécu cette rupture relationnelle le plus intensément possible, mais il a voulu le vivre volontairement à notre place. C'est volontairement qu'il est sur la croix, alors qu'il est innocent. Il subit les conséquences ultimes de l'indépendance que nous avons voulu prendre à l'égard de Dieu. Il subit les conséquences de la rupture relationnelle que nous avons causée avec celui qui seul peut assurer l'harmonie du monde. L'harmonie ne provient que du Créateur qui sait comment le monde fonctionne. Et donc on a besoin de récupérer cette relation avec lui. Et puisque Jésus a fait cela volontairement et innocemment, puisqu'il l'a fait, oui, juridiquement, pénalement, alors un glorieux échange est possible. Pour ceux qui, en contemplant la croix, mettent leur confiance en Jésus, comme en leur représentant, comme en leur grand roi, pour tout cela, Dieu se fait présent. Il se donne en présent. Il se donne à nous. Et désormais, la réconciliation avec Dieu est possible. Oui, La relation a été brisée par notre faute, par une injustice. Et cette injustice doit se payer par un manque d'harmonie de plus en plus grand dans nos vies. Et peut-être pour l'éternité. Mais Dieu propose la réconciliation à tous ceux qui voient en Jésus celui qui subit volontairement les conséquences de notre rébellion, les conséquences de la désharmonie que nous avons introduit sans et que nous introduisons sans cesse dans notre monde. Et donc, c'est ainsi que la croix peut être comprise, présentée et acceptée comme présence favorable de Dieu, comme réconciliation entre Dieu et les hommes, comme le premier pas de du rétablissement de toutes choses, du rétablissement de l'harmonie pleine et entière que nous ne voyons pas encore, mais que nous verrons un jour, que verront un jour tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu grâce au Christ. Nous pouvons et nous devons présenter la croix comme réconciliation. Et je crois que dans le contexte français, c'est l'angle d'attaque principal que nous devons adopter. Même si ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas à un moment de substitution et ce genre de choses. Mais on ne peut pas le dire en premier, ça ne veut rien dire pour notre société. Et deuxièmement, la croix comme victoire. De quelle manière la croix est-elle une victoire? Comment la victoire dont nous avons besoin sur le mal, sur la maladie, sur la tristesse, sur la souffrance, etc., etc., comment cette victoire dont nous ressentons le besoin nous est-elle donnée par la croix? Eh bien, elle nous est donnée parce que Jésus est le chef d'alliance, le représentant de ceux qui croient en lui, le roi de son peuple. En tant qu'il est notre représentant, nous sommes comptés comme bénéficiaires de ce qu'il accomplit en notre faveur. Et c'est pour ça que Matthieu nous dit que des corps ont ressuscité lors de la résurrection de Jésus. Sa victoire sur la mort, il ne l'a pas obtenue seulement pour lui-même. En fait, il l'a obtenue pour tous ceux qui lui appartiennent. En mourant sur la croix, il met à mort la mort. Il vainc cet imposant ennemi. Et il le fait pour ceux qui admettent, comme le centurion, et comme ceux qui étaient avec le centurion, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, le représentant de son peuple, le roi envoyé par Dieu, le Seigneur auquel nous devons tous rendre compte un jour, mais qui nous sauve si nous croyons en lui. Et s'il a vaincu la mort, alors à plus forte raison, il a vaincu tout ce qui est moins fort que la mort et qui, comme la mort, nous fait la guerre et nous pourrit la vie. S'il a vaincu la mort, il peut vaincre aussi toutes nos faiblesses, il peut vaincre nos addictions, il peut vaincre peut-être nos forces, nos liens avec des forces occultes. Certains de nos amis croient, et à juste titre, à un monde des esprits qui leur fait peur, mais qu'ils essaient de dominer, de manipuler par des pratiques occultes pour que les choses aillent comme ils veulent. Alors peut-être c'est plus vrai dans des cultures traditionnelles où l'animisme et la religion, ou la forme religieuse naturelle, c'est vrai aussi peut-être pour certains de nos amis qui sont spirituels, qui font du spiritisme, qui font de l'occultisme. On en a plus, il y en a plus que ce qu'on croit. Et ces personnes-là ont besoin d'une victoire. Ils ont besoin de savoir que cette vie qu'on ne maîtrise pas, eh bien, il y a quelqu'un qui la maîtrise, à qui on peut se confier. Le problème, c'est que la manière dont eux, ils font les choses pour manipuler les forces de la nature, eh bien, au lieu de les libérer, au final, ça les rend encore plus esclaves de telles forces. Mais Jésus peut les libérer, vu qu'il a même vaincu la mort. Il peut vaincre ses forces qui sont moins fortes que la mort. Alors bien sûr, ultimement, Jésus a déjà vaincu tout ce qui rend esclave l'homme, et premièrement le péché qui est en nous et la mort qui nous attend tous. Mais il faudra attendre un petit peu avant d'en retirer tous les fruits. Ce n'est que dans la nouvelle création que nous connaîtrons une vie sans deuil, sans tristesse, sans larmes, sans péché aussi. Mais nous savons que la victoire est certaine, puisque Jésus a vaincu lui-même le plus formidable des ennemis, et qu'il ne l'a pas vaincu seulement pour lui-même, mais qu'il l'a vaincu pour tous ceux qui croient en lui. Et donc, nous vivons dans une période intermédiaire. La victoire est déjà gagnée en principe à la croix, mais tous les effets ne sont pas encore visibles. C'est un peu comme lorsque les Alliés ont débarqué en juin 45, et qu'ils ont très rapidement progressé. On s'est rendu compte en quelques jours, en quelques semaines, que la victoire était inéluctable. C'est sûr, ça allait arriver. Bien sûr, il faudrait un peu de temps, quelques mois, mais c'est sûr, on allait gagner. Même si entre-temps, il y aurait des problèmes, des douleurs, et même parfois des échecs temporaires. Mais c'était précisément en vue de la victoire finale, certaine qu'il était possible de supporter ces échecs temporaires, ces douleurs, encore pour un peu de temps. De même, la victoire du Christ sur la mort et sur tout ce qui asservit l'homme, elle est certaine, c'est sûr. Nous en retirons tous les bénéfices si nous le reconnaissons comme notre roi. Même si on ne retirera pas tous les bénéfices tout de suite. Et c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Alors oui, nous devons prendre en compte notre contexte dans notre présentation de la croix et avoir l'intelligence, la sagesse de savoir par quel bout commencer pour présenter la croix. C'est pas trahir la croix que de la présenter d'une manière adaptée à ceux à qui nous parlons, en leur en parlant comme une réconciliation, ou comme une victoire, ou comme une rédemption, ou comme une justification. C'est juste qu'il y a des images qui parlent plus que d'autres. L'esclave qui est racheté, ça parle pas toujours beaucoup. La substitution pénale, pareil, ça parle moyen. La réconciliation, peut-être que ça correspond plus à certaines de nos aspirations. Il y a plusieurs manières de parler de la croix, et ça tombe bien, parce que tous n'ont pas les mêmes besoins ressentis. Et c'est toujours mieux de présenter l'évangile, de prêcher la croix, en prenant un angle d'attaque qui suscite l'intérêt de ceux qui nous entourent. Mais je voudrais faire remarquer que même si ces présentations de la croix comme réconciliation et comme victoire sont bibliques et donc sont utiles, ces présentations ne fonctionnent en fin de compte que dans la mesure où elles sont elles-mêmes articulées autour du modèle juridique de la substitution pénale que nous avons vu hier. Et c'est pour ça qu'il a été bon pour nous d'étudier d'abord, avec le début de notre chapitre, la croix comme condamnation légale, pénale d'un innocent qui se sacrifie volontairement pour qu'il puisse y avoir substitution pénale, pour qu'il puisse mourir volontairement à notre place, non à cause de ses propres fautes, parce qu'il n'en a pas, mais à cause des nôtres. C'est pour ça aussi qu'il a été bon ensuite d'enfoncer le clou, si je peux me permettre, avec la deuxième partie du chapitre, pour voir en Jésus le juste, injustement persécuté, qui subit notre condamnation à notre place, parce qu'il est notre roi, notre représentant, et qu'en subissant cela, il se substitue à nous. Et c'est cela qui nous permet de voir que parce que nous ne sommes plus condamnés et que nous sommes désormais au bénéfice de son œuvre, nous sommes réconciliés avec Dieu et vainqueurs sur la mort. Alors c'est vrai, souvent nos amis, nos proches seront incapables de nous écouter si nous commençons à parler dans du jargon, substitution, pénale, comme le fait, et même si on dit simplement que Jésus est mort à notre place, ça n'aura pas beaucoup de sens. Et même parfois ça les fermera. Ils diront, mais c'est quoi cette religion où il y a besoin de donner? Pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas simplement pardonner tout simplement parce qu'il le veut? Par contre, si nous commençons par leur parler de réconciliation avec Dieu, ou pour certains d'entre eux, si nous leur parlons de la victoire sur la peur, de la victoire sur la mort, alors nous avons plus de chances d'attirer leur attention. Mais dans un deuxième temps, il faut savoir que nous aurons à leur parler d'une manière ou d'une autre, de l'aspect substitutif, juridique, de l'œuvre du Christ, à notre place et en notre faveur, pour qu'ils puissent vraiment comprendre pourquoi cette réconciliation est possible, pourquoi cette victoire devient la nôtre. Alors, c'est ma prière, que Dieu nous bénisse et nous garde par cette contemplation de la croix, par ce signe de sa présence favorable à notre égard, si nous croyons en lui, comme Fils de Dieu. Que cette vision nous donne un zèle nouveau pour annoncer à ceux qui nous entourent la justification, la réconciliation ou la victoire. Mais en tout cas, que ça nous donne le zèle pour annoncer ce qui s'est passé à la croix. Que cette vision de la croix, peut-être aussi, soit pour certains d'entre nous l'occasion de mettre pour la première fois, véritablement, sa confiance en ce Jésus, de s'abandonner existentiellement à ce glorieux mais humble roi qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié et qui est mort. Amen.
Merci beaucoup Pierre-Sylvain. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 45 secondes. Donc une question rapide, ouais, merci. Et Scott aussi.
Juste faire un rapprochement avec le psaume 22, parce que en le relisant grâce à toi, je retrouve trois aspects qui semblent montrer que finalement le début du psaume 22 où Jésus dit, enfin, qui reprend le, quand Jésus reprend « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, si on regarde toutes les références que tu as données, il y en a qui montrent que dans la crucifixion de Jésus, il y a le passage « mes adversaires se partagent mes habits, ils tirent sur mes vêtements », donc les non-juifs. Il y a la réaction des passants juifs plus haut, les gens m'insultent en hochant la tête, etc. Et au début, il y a « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ce que dit Jésus. Donc Jésus, personnage principal, donc on retrouve réaction des Romains, des Juifs et de Jésus dans le psaume 22. Donc ça serait une façon d'expliquer qu'ils disent ça, Jésus sur la croix.
Alors, effectivement, après il y a des débats sur qu'est-ce que c'est le psaume 22, est-ce que c'est une prophétie Personnellement, je pense que ce n'est pas une prophétie au sens strict et que le psalmiste, celui qui a écrit, voulait véritablement parler d'une expérience personnelle. Et donc, on peut faire des rapprochements. Et d'ailleurs, il faut faire le rapprochement. Et simplement, le psalmiste est un juste persécuté. C'est juste qu'il n'est pas aussi juste que le véritable juste. Il n'est pas aussi persécuté que le véritable persécuté. Donc, quelque part, Jésus va intensifier encore l'expérience du psalmiste. Mais je trouve que c'est une bonne insight. Comment on dit en français ?
Un point de vue...
Perspicace.
Perspicacité. Voilà. Je crois que Scott avait une question, si je ne m'abuse.
Non. Titre, la mort. Tu as joué avec ça. J'avais envie de poser la question. La mort est-elle vraiment morte ? Parce que pour moi, la mort a l'air bien vivante. Mais tu as déjà commencé à répondre à cette question vers la fin. Donc, dis-nous, Pierre Sauvane, est-ce que la mort est morte? Est-ce que la mort a reçu un coup mortel et la mort est mourante? Est-ce que la mort va mourir? Joue avec ça un peu, parce que je suis sûr que tu as quelque chose d'intéressant à dire.
Alors, première chose, c'est pas moi qui ai choisi le titre.
Oui.
Donc, ça dépend comment on considère l'affaire. Je dirais que... la mort n'a pas la même signification pour un chrétien et un non-chrétien. Il y a cette phrase du catéchisme de Heidelberg qui demande « Mais si Jésus a vaincu la mort, pourquoi est-ce que les croyants doivent quand même mourir ?» Et la réponse, c'est que la mort, eh ben, c'est plus un châtiment, c'est quelque part le passage vers autre chose, et c'est le commencement d'autre chose. Et donc, pour un croyant, la mort n'est plus une mort, mais quelque part, c'est le commencement d'une nouvelle étape. Et donc, dans ce sens-là, la mort est morte. Parce que ce n'est plus la condamnation qui arrête les choses et pour qui, après la mort, vient le jugement, et un jugement terrible parce que c'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Donc, dans ce sens-là, la mort est morte. D'un autre côté, la mort est bien vivante. On devra tous la subir et on doit tous en subir les conséquences. Aussi au niveau relationnel, on va perdre des proches, la mort est bien là. Par contre, la mort est morte en principe, et dans ce cas-là, elle est mourante, elle a reçu un coup fatal, et c'est sûr qu'un jour, ce ne sera plus une réalité pour nous. Mais dans ce cas-là, il faut attendre ce qu'on a, la consommation de toute chose, le fait qu'on arrive au terme. Il y a une inauguration, il y a un développement, et il y a une consommation. Et pour la mort, l'inauguration a été mise... Au moment de la mort de Jésus, la mort a été mise à mort en principe, et la consommation, ce sera au moment du retour de Jésus, et là, il n'y aura plus de deuil ni de larmes, et la mort sera mise à mort totalement, et on aura tous les effets.
Merci.
D'autres questions ? Oui. Héloïse.
La question est, quel était l'argument ? Est-ce que je peux répondre ?
Ouais. Quel était l'argument de Jésus selon lequel il avait maîtrisé sa mort, c'est ça ?
Alors, pour moi, c'est pas forcément le point central du passage, et c'est pas forcément le passage où c'est le plus clair, mais simplement, le fait que Jésus meure miraculeusement, c'est-à-dire bien avant que ce qu'il aurait dû mourir dans une crucifixion normale, normalement, ça durait des heures et des heures, et normalement plusieurs jours. Parfois, on hâtait la mort des crucifiés en leur brisant les os. Et Jésus n'a pas eu les os brisés parce qu'il est mort trop rapidement. Et le fait que, quelque part, les choses se passent selon son timing, on voit qu'il pousse un dernier cri, un grand cri, il dit quelque chose, même si Matthieu ne nous rapporte pas quoi, et après c'est terminé. Donc ça montre qu'il y a un timing qui est respecté, et on a l'impression que Jésus sait ce qu'il fait à chaque moment. Il décide de reprendre du vin pour pouvoir avoir à nouveau de la voix, et puis il en termine quelque part. Et derrière ça, on peut comparer avec d'autres textes. Le texte le plus important, c'est en Jean 10, où Jésus dit qu'il a le pouvoir de donner la vie, il a le pouvoir de la reprendre. Pardon ? J'ai pas entendu. Il donne sa vie, oui. Il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de la reprendre. Je pense que ce qu'il dit en Jean, ça se vérifie dans l'enchaînement des faits qu'on a dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, parce qu'on a l'impression qu'il y a un timing qui est respecté et Jésus n'est pas pris au dépourvu par les événements. Maintenant, c'est juste une impression, ce n'est pas le point principal que Matthieu souligne ici. Ça répond ?
Il dit aussi, je remets mon esprit en fait voilà. Main, et après il soupire. Donc,
Mais c'est pas en Matthieu, donc non, non. Comme j'ai prêché dans Matthieu.
D'autres. Oui, Déborah.
Avant, vous avez entendu l'esprit sur ce passage. C'était Jean 3, c'est ça, qui disait Joël, avec les enfants devant elle, le ciel était devant elle, le soleil et la lune se plongeaient dans l'obscurité. C'est le jour de l'éternel, en fait.
Disons, il y a une complexité avec le thème du jour de l'Éternel, parce qu'en fait, quand on regarde le thème du jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça désigne vraiment beaucoup de choses. Et en fait, moi, ma conclusion, c'est que le jour de l'Éternel, c'est toute intervention spéciale de Dieu dans l'histoire. Ce qui signifie qu'il y a à la fois des aspects positifs et à la fois des aspects négatifs. Et c'est vrai que le jour de l'Éternel, dans Joël 2, ça a des aspects qui sont plutôt négatifs. Mais en même temps, quand on regarde le jour de l'Éternel dans Joël 3 et 4, c'est le renouveau, et c'est l'Esprit qui est répandu. C'est une intervention spéciale de Dieu dans l'histoire, et c'est plutôt positif. Pour moi, l'allusion n'est pas claire de Joël 2 par rapport à Matthieu 27, comme elle est claire en acte 2, parce que là, le texte est nommément cité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas plusieurs accomplissements de Joël 2, mais j'ai plus l'impression je ne pense pas que les ténèbres et ce qui fait qu'on parle de Joël 2, c'est qu'on a les ténèbres et le tremblement. Et à mon avis, Matthieu ne lit pas les deux nécessairement. Il y a d'abord les ténèbres pendant 3 heures, et après il y a Jésus qui expire, et à mon avis c'est la fin des 3 heures, et après il y a le tremblement. Et du coup, pour moi, la référence au tremblement, c'est plus au tremblement en général et pas à une prophétie particulière. Et donc, ça, c'est plus l'aspect théophanique qui est souligné là, de manifestation de la présence de Dieu au Sinaï, à Élie, et comme on va retrouver dans l'Apocalypse, à chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, il y a des tremblements de terre. Aussi dans la vision d'Ésaïe, en Ésaïe 6, il y a le temple qui tremble, parce que Dieu se fait présent d'une manière terrible à un certain niveau. Mais je ne dis pas que c'est impossible, quelque part c'est le jour de l'Éternel aussi à la croix, mais je ne pense pas que ce soit la visée principale de Matthieu ici. Oui.
D'autres questions ? Oui, Amanda.
Ce que je veux demander, c'est que on a passé un an dans l'hôpital comme aumônier. Et donc, j'ai vu beaucoup de gens qui croient en Jésus et qui avaient un espoir pour la vie éternelle. Mais en même temps, ils souffrent des maladies même mentales, qui étaient vraiment comme une expérience de la mort vivante. Et ce que je veux demander, c'est comment est-ce qu'on vit avec la mort dans la tête, dans le corps, et avec plus qu'un espoir de 20 ans au futur de mourir et avoir la vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut avoir une expérience pratique de la vie comme ces gens-là ont une expérience de la mort vivante. C'est clair? Parce qu'il y a il y a une expérience de la mort vraiment vivante dans la vie. Les maladies et les
très bien, très bien.
Mais quelles sont les expériences de la vie qui correspondent à ces expériences de la mort?
Alors,
c'est la louange, c'est quoi?
Disons,
pas répondre aux questions aujourd'hui.
Dans notre vie, ce qu'il faut voir, c'est que il y a une tendance qui est là, c'est celle de la dégradation de toute chose. Et là, je ferai intervenir un livre biblique particulier, celui de l'Ecclésiaste, qu'on utilise souvent en disant, voilà, l'Ecclésiaste, c'est un sage qui était pessimiste, et heureusement, Jésus est là pour venir nous donner de l'espoir. Mais je ne crois pas que ce soit ça, parce que l'Ecclésiaste, c'est un sage qui croit en Dieu. Et en fait, il veut nous apprendre à vivre la vie telle qu'elle est. Et même si on a Dieu dans notre vie, c'est une sorte de méditation sur la chute. Même si on a Dieu dans notre vie et qu'on est un croyant, et qu'on croit en Dieu et qu'il y a des belles choses dans la vie, et ben, tout est vanité, tout est frustrant, tout est décevant. Et d'un côté, il faut apprendre à se réjouir des petites choses de la vie, comme boire et manger et profiter de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse et que tu aimes toujours. Et d'un autre côté, il faut savoir que même dans les plus grands projets qu'on peut avoir, les choses les plus excitantes qu'il y a dans la vie, les grandes constructions que peuvent faire les rois, les grands projets qu'on peut avoir, eh ben, y a toujours quelque chose de décevant. Et donc, dans toutes les expériences qu'on vit en tant que croyant, à la fois, on vit la vie et on expérimente quelque chose de la vie. Et dans le simple fait de boire ton pain avec contentement et de boire ton vin avec de la joie dans ton cœur, et Ecclésiaste 9, t'es simplement en train de jouir de la vie. Et dans les petites choses, on peut apprendre à se réjouir de la vie et expérimenter la vie et avoir un avant-goût de ce que sera la vie sans la corruption, sans la vanité, sans la futilité. Et on est sauvé en espérance. Avec la création qui soupire, parce qu'il y a un manque d'harmonie dans la création, et nous soupirons avec la création, nous aussi, en attendant la rédemption de nos corps. Ce jour, oui, c'est pas juste nos corps physiques, c'est ce jour où la vanité disparaîtra, et que quand on fait des projets, et ben, ce sera des projets qui ne seront pas frustrants parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ce sera les belles choses de la vie, et ben, il n'y aura pas toujours... on commence et au début c'est bien et puis ça a le goût de miel dans la bouche et puis dans le ventre ça a un goût amer. Il faut apprendre à vivre avec la vie telle qu'elle est, un peu vaine, un peu futile parce que c'est la vie telle qu'elle existe entre Genèse 3 et Apocalypse 21. Et on peut attendre Apocalypse 21 en ayant un avant-goût, en mangeant son pain avec joie, en buvant son vin avec joie. En profitant de la femme de sa jeunesse. Voilà.
En venant congréger de lui.
Alors, c'est pas dans l'Ecclésiaste, mais.
On peut rajouter. D'autres questions? Pour faire cela.